restons dans l'état de cœur et de pensée de ce dernier chant et dernière prière, car ce matin, donc, nous allons lire ensemble d'un livre qu'on aborde finalement peu dans le cadre du culte. Nous allons lire dans le Cantique des Cantiques, chapitre 6. Cantique des Cantiques, chapitre 6, les trois premiers versets. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Un livre donc qui s'appelle, selon le premier verset, Cantique des Cantiques. Alors un peu l'équivalent de lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc Cantique des Cantiques. Le meilleur des cantiques, le plus grand, avec un thème grand, mais finalement, effectivement, un thème qu'on aborde rarement dans le cadre d'un culte, d'une part, puisque donc le thème abordé, le langage employé, est rarement cité dans le culte, mais je dirais aussi parce que c'est un livre par rapport à d'autres dans la Bible, qui est de la poésie pure et donc nettement plus compliqué à lire, à comprendre. D'ailleurs, les deux éléments, les images et le langage employés, et puis l'aspect poétique fait que dans la culture juive, il y a pas mal de rabbins qui disaient qu'il ne fallait pas lire ce livre avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Donc, c'est sûr que étant un livre de poésie, c'est parfois plus compliqué de lire, de saisir ce que ça veut dire, et surtout de saisir qu'est-ce que ça veut dire pour moi, comment est-ce que j'applique ça dans ma vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers un tel livre? D'autant plus si vous êtes comme moi, si j'ai choisi d'étudier les langues étrangères appliquées, c'était pour éviter d'avoir à étudier la littérature et surtout la poésie à la fac. J'étais suffisamment fâché avec ça à l'école. J'avais l'impression que finalement, chaque fois que le prof demandait « Alors, qu'est-ce que l'auteur voulait dire quand il a écrit ce texte ?» Il a inventé ce qu'il voulait, on pouvait dire tout ce qu'on voulait. Et finalement, je dis là, si tu tiens tellement à savoir ce que l'auteur a voulu dire lorsqu'il a écrit le texte, vous avez qu'à le contacter et lui demander. Mais arrêtez de m'embêter avec de telles questions. C'est clair qu'il y a des textes qui sont plus simples dans la Bible à lire, à comprendre, à appliquer dans notre vie. Les textes de loi de Moïse, par exemple, c'est simple. Moïse dit « Tu feras ceci, tu ne feras pas cela ». On comprend, on est d'accord ou pas d'accord, mais on comprend facilement. Et puis on sait ce que cela demande de nous. Les textes de l'histoire sont quand même facile à comprendre, si c'est les textes de l'Ancien Testament concernant l'histoire d'Israël, si c'est l'histoire de la vie de Jésus dans les évangiles, ou si c'est les enseignements des apôtres dans les épîtres, c'est assez facile de savoir, voilà, l'apôtre enseigne cela, donc voilà ce que cela veut dire dans ma vie. La poésie, c'est plus compliqué, mais Néanmoins, le Saint-Esprit a inspiré les saints hommes qui ont écrit les textes de notre Bible à écrire pas mal de textes poétiques, de textes poétiques en plus écrits dans leur langue, dans leur culture, y compris donc ce cantique des cantiques, et il l'a fait mettre dans nos Bibles. Alors, il semblerait que ce cantique ressemble pas mal au cantique ou au poème de mariage qui a été écrit à cette époque dans cette région du monde, donc dans le Moyen-Orient. Et c'est un cantique qui est centré sur un amour profond, intense, fidèle d'un couple follement amoureux l'un de l'autre. Un couple qui n'avait pas peur d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Qui, si vous lisez le texte, finalement, on dirait n'avait Dieu que l'un pour l'autre, quelles que soient les choses qui se passaient autour, quelles que soient les tentatives des autres de les séparer et de ternir leur amour. Certains, vous allez voir, c'était par moquerie, d'autres, c'était par flatterie et par le fait d'essayer de les séduire, d'autres c'était par des menaces ou par la violence, toutes sortes de tentatives de les détourner l'un de l'autre, mais finalement, du début jusqu'au bout, ils sont complètement épris l'un de l'autre et ne s'intéressent que l'un à l'autre. Donc finalement, à premier niveau, ce livre nous montre que Dieu n'a rien contre l'amour intense, passionné, fidèle au sein d'un couple, au sein du mariage, et que même le désir l'un pour l'autre dans ce contexte d'un mariage fidèle n'est pas contre les projets de Dieu. Dieu l'a même mis en avant dans un livre entier de la Bible. Un tel amour dans nos couples n'est pas la conséquence de la chute, n'est pas quelque chose cédé au péché. La Bible nous dit que c'est plutôt un don de Dieu. Marc chapitre 10, versets 6 et 7, on a un passage où les pharisiens viennent vers Jésus pour lui tendre un piège. Et les pharisiens lui disent, Moïse nous a dit que nous pouvions divorcer nos épouses pour n'importe quelle raison, n'est-ce pas? Quelle est la réponse de Jésus? Jésus, donc dans le verset 6, dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Jésus leur dit, mais pourquoi est-ce que vous vous basez sur la loi de Moïse pour décider cela, pour savoir quel était le projet de Dieu pour votre vie, pour votre mariage? Il dit, Moïse a dû faire une concession vu la dureté de votre cœur. Lui, il a mis cette loi en place parce que Dieu a reconnu à quel point vous étiez loin d'être les personnes capables de vivre ce que lui y désirait pour vous. Mais quel était le projet de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a révélé, lui, au commencement de la création? Il a créé un homme et une femme et les a mis ensemble. D'où Jésus qui conclut donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble. Donc, ce livre nous aide à comprendre qu'un amour, même passionné au sein d'un couple marié, est un don de Dieu. Même si la Bible nous dit que comme avec tous les dons de Dieu, Dieu donne certains dons à certaines personnes et d'autres dons à d'autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, l'apôtre Paul dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Donc il dit « Certaines personnes ont reçu le don d'un conjoint, d'autres personnes ont reçu le don de ne pas se marier. » Et puis, en Matthieu chapitre 19, verset 11, lorsque les disciples disaient à Jésus, bah, si ce que tu dis est vrai, il vaut mieux rester célibataire, il dit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc il n'y a pas de projet unique, de don unique de Dieu. Dieu donne des dons différents à chacun et il demande bah, si on est en couple ou si on est seul, d'être pleinement satisfait de lui jusqu'à un éventuel changement de nos circonstances. Mais donc, Paul va même dire dans 1 Corinthiens 7 que bon, certainement, ceux qui sont dans une relation de mariage vont être un peu avoir les yeux qui partent dans deux directions différentes, puisqu'on va être d'un côté concentré sur le Seigneur, mais en même temps, il dit, à partir du moment où on entre dans le mariage, on a aussi besoin d'avoir cet amour profond, cet amour intense, cet amour fidèle vis-à-vis de son conjoint. Donc ce cantique est un éloge à l'amour dans un couple marié, et c'est donc un texte qui, dans ce contexte-là, mérite d'être lu par tous les couples. Si vous êtes en couple marié, je vous encourage à lire ce livre ensemble, car par ce texte, Dieu nous montre quel genre d'amour il a prévu, il désire voir au sein de nos couples. Vous savez, la Bible n'est pas un livre purement théologique qui nous donne des informations au sujet de Dieu et de la foi et de comment se comporter dans l'Église. C'est un livre par lequel Dieu nous instruit sur comment vivre notre vie de tous les jours. Parce que Dieu ne nous rachète pas, il ne rachète pas uniquement nos dimanches matins, il ne s'intéresse pas uniquement à ce qui se passe lorsqu'on est à l'Église. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toute notre vie. Et il veut nous conduire et faire appliquer sa grâce et son amour dans tous les domaines pratiques de notre vie. Donc, 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, même le cantique des cantiques est inspiré de Dieu et utile pour m'enseigner, me convaincre, me corriger, m'instruire dans la justice, afin que je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Même si étant de la poésie, ça nécessite un peu plus de réflexion que d'autres textes qui vont être faciles à appliquer. Donc ce livre est un livre qui, surtout donc dans ce contexte d'un couple fidèle marié, nous montre le genre d'amour que Dieu a pour nous, qui mérite donc de conduire notre compréhension de comment vivre notre amour dans le couple. Mais cela dit, je dirais surtout aux messieurs, attention, si vous utilisez ce texte pour faire des compliments à votre épouse, parce que bon, comme j'ai dit, c'est de la poésie qui a été écrite dans leur langue, dans leur culture, pas garantie qu'aujourd'hui au Luxembourg, une femme prenne très bien si tu lui dis « Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres » ou « Tes dents sont comme un troupeau de brebis ». Mais bon, c'est quand même un texte qui peut nous aider à savoir comment vivre cet amour fidèle, profond, intense. Mais au-delà de cela, c'est aussi un cantique d'amour divin. Puisque depuis que ce livre fait partie des textes inspirés, donc déjà chez les Juifs, des siècles avant la naissance de Jésus, les rabbins ont reconnu un deuxième niveau pour comprendre ce texte. Parce que déjà à l'époque de l'Ancien Testament, si vous lisez les prophètes, vous allez voir que déjà les prophètes utilisaient le mariage comme une image pour parler de la relation entre Dieu et son peuple. On le trouve dans plusieurs des prophètes. Et puis dans le Nouveau Testament, c'est une image qui est reprise par Jésus, par les apôtres, pour parler de la relation dans le Nouveau Testament entre Jésus et son Église. Dans Marc chapitre 2, versets 18 et 19, il est écrit que les disciples de Jean, donc Jean-Baptiste, et les pharisiens jeûnaient. Et ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ?» Jésus se présentait comme l'époux de son Église. S'il voulait parler de cette relation qui existait entre lui et ses disciples, il disait que lui, il était l'époux. Et dans Jean chapitre 3, versets 28 et 29, lorsque les disciples de Jean-Baptiste vont voir Jean-Baptiste pour lui dire « Il faut que tu réagisses. Regarde, ce Jésus que tu as baptisé, il est en train de devenir plus populaire que toi. Il est en train d'avoir plus de disciples que toi. » Jean-Baptiste leur répond, « Vous-même, vous m'êtes mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Donc Jean-Baptiste aussi, il dit, Jésus, c'est l'époux. Ses disciples, donc l'Église, c'est l'épouse. Et moi, je suis l'ami, je suis le témoin de l'époux. Donc, c'est tout naturel que par la suite, l'amour profond, intense, fidèle, qui est dépeint dans le Cantique des Cantiques, soit présenté aussi après comme image de l'amour que Jésus a pour son Église, et vice-versa. 1 Jean chapitre 4, verset 19, qui a été cité tout à l'heure, nous rappelle, « Nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, il y a quelques semaines, nous avons vu que justement, cette relation d'amour mutuel entre nous et Jésus est tout le fondement de notre foi, de la foi chrétienne. La foi chrétienne n'était jamais censée être juste une religion de plus, avec des rites, avec des structures. Mais Jésus est venu nous révéler l'amour du Père pour nous, nous a invités à vivre dans une relation d'amour, et donc lui se met au milieu pour qu'il y ait cet amour entre l'épouse et l'époux qui nous conduit jusqu'à Dieu le Père. Et c'est l'apôtre Paul en particulier, après, qui va utiliser cette image du mariage, cette image de l'amour entre mari et femme pour parler de cette relation entre Jésus et l'Église dont nous trouvons donc l'expression idéale dans ce cantique des cantiques. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il est écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Alors je sais que Éphésiens 5 est un passage qui souvent fait pas mal grincer les dents des femmes, vu que, donc, c'est un passage qui commence par « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Mais finalement, entre les deux, je me demande si ce n'est pas les femmes qui s'en sortent les mieux. Puisque, par la suite, donc, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, le modèle qui est donné au mari à imiter, c'est Jésus qui est prêt à être cloué sur une croix, dans l'intérêt de son épouse. Et Paul dit, c'est ça votre modèle de comment vous devez exercer votre rôle de mari. Donc Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul dit, si vous voulez savoir quelle est la relation entre nous et Jésus, il suffit de regarder au modèle du mariage, au moins le modèle que Dieu a en tête lorsqu'il parle d'un mariage. Et effectivement, donc, pour cela, rien de mieux que de voir cet amour dépeint dans le cantique des cantiques. Dieu, donc, désire que notre relation avec lui reflète la relation qu'on trouve dans ce livre. Et l'apôtre Paul le souligne encore dans 2 Corinthiens 11, verset 2, quand il écrit à l'église de Corinthe, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Si vous lisez les lettres aux Corinthiens, il y avait des gens dans cette église qui se disaient « Mais il se prend pour qui l'apôtre Paul ?» Il a toujours son mot à dire, il veut toujours nous dire comment nous devons vivre, il veut toujours se mêler de notre vie privée. Paul dit, ben, si je fais cela, c'est parce que je vous ai fiancé à un seul époux, à Jésus-Christ. Et donc moi, je veille sur vous parce que je désire que le jour où Jésus-Christ viendra, où l'époux reviendra pour chercher son Église, vous puissiez être présenté à Christ comme une vierge pure. Et donc, oui, je suis jaloux de vous, donc j'agis comme quelqu'un qui veut absolument vous garder pour votre époux, qui a la charge de vous garder en vue de cela. Et donc, tout ce qui pourrait ternir à cet amour, tout ce qui pourrait nuire à cela et vous détourner de votre époux, de votre fiancé, je me mets en guerre contre cela parce que mon objectif, c'est donc de vous présenter à Christ, à ce fiancé, cet époux, comme une vierge pure, préparée pour lui, fidèle à lui, passionnée de lui, avec un amour profond pour lui. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans l'extrême de certains qui ont pris de ce livre des cantiques qui ont monté des théories pas possibles en cherchant des détails pour presque chaque mot du livre. L'image de l'amour qui est présentée suffit pour nous aider à comprendre ce que Dieu désire nous dire. Pourquoi Dieu a mis ce livre dans nos Bibles? Puisque donc son désir c'est de nous révéler son amour, nous montrer la profondeur de ses sentiments à lui et dans le but de créer des sentiments aussi profonds en nous pour que donc cela inspire notre relation avec lui. Il y a une quinzaine de jours, Alain nous a parlé d'être enthousiaste pour le Seigneur, d'être passionné de Dieu. C'est ce qui est reflété dans ce livre. Deux personnes pour qui la seule chose qui compte, c'est leur bien-aimé. Ou donc la motivation profonde de toutes leurs actions, de toute leur vie, c'est l'amour de leur bien-aimé. ça nous révèle donc au-delà de ce que de l'enseignement pour nos couples, ça nous révèle aussi une manière de vivre notre foi qui va bien au-delà d'une simple religiosité où on fréquente le culte, où on a nos rites, où donc on porte une certaine religion. Ça va bien au-delà d'une sorte de foi qui ne cherche qu'à être bénie et à récolter des bénédictions matérielles que Dieu veut bien donner, mais où on est passionné pour Dieu. Pas pour nous-mêmes, pas pour ce que moi je peux gagner à travers en faisant jouer mes relations avec Dieu, mais où je suis passionné de Dieu lui-même. Psaume 37, verset 4, nous dit de faire de l'Éternel nos délices. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. On ne peut pas citer juste la deuxième partie du verset, Dieu te donnera ce que ton cœur désire, sans la première partie du verset, qui dit Dieu donnera ce que ton cœur désire, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices. Parce qu'à ce moment-là, que désirera notre cœur ? C'est lui. Et lui, il est toujours prêt à se donner à ceux qui ont envie de lui. Il est toujours prêt à nous combler de sa présence et de cette bénédiction de le connaître lorsque nous faisons de lui nos délices, lorsqu'il est notre bien-aimé. Dans ce livre, la seule chose qui compte pour la bien-aimée, c'est de retrouver, d'être dans la présence de son bien-aimé. Et elle est prête à tout pour le rencontrer. Si elle se fait tabasser pour cela, c'est le prix à payer. Si on se moque d'elle pour cela, c'est le prix à payer. Tout son rêve, c'est d'être avec son bien-aimé, d'être dans sa présence, jusqu'à trouver son identité dans sa relation avec lui. Le plus grand bien de sa vie, c'est de pouvoir dire « Je suis à mon bien-aimé ». Pourquoi est-ce que nous portons le nom de chrétien? Si vous lisez dans le livre des Actes, c'est parce que ces personnes qui jusque-là étaient considérées comme une secte juive étaient tellement obsédées par la personne de Jésus, voulaient tellement vivre pour le Christ, que les autres autour ont fini par les appeler des chrétiens, des gens qui reflétaient le Christ, les gens qui n'avaient à faire que pour le Christ. Mon bien-aimé est à moi. Quelle grâce lorsqu'on sait qui est notre bien-aimé. Que Dieu désire être à nous. Que Dieu désire vivre avec nous. Que nous ayons cette envie d'être avec Dieu. C'est finalement peu surprenant. Mais le côté vraiment surprenant, c'est qu'un Dieu tellement grand désire vivre en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aussi aux Corinthiens en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Alors déjà, les Juifs se moquaient de Jésus lorsqu'il a dit « Démolissez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. » Ils se sont dit, mais un temple, c'est une immense bâtisse. Et il a fallu des années et des années de construction. Et même, à leur époque, c'était simplement qu'on avait agrandi le temple qui était déjà sur place. On dit, mais rendez-vous compte. Dieu, le Dieu de qui Salomon a pu dire, j'ai fait toute cette construction de temple, mais je sais pertinemment que ce temple est beaucoup trop petit pour te contenir. D'ailleurs, l'univers entier est trop petit pour te contenir. Et Paul dit, ce Dieu-là tient tellement à vous qu'il fait de ton corps son temple. Il désire venir vivre avec toi, en toi, d'être toujours avec toi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Alors sans tomber dans une sorte de sentimentalisme mielleux, soyons tout de même passionnés de Dieu, passionnés de ce bien-aimé. Faisons de lui notre bien-aimé au point de pouvoir dire « Mon plus grand bien, c'est de dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ».